Voilà, comme ça. Mets-toi. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded,
sir. Che fai, credi?
Passata, fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Come fa che dici?
Bonjour à toutes et à tous, les amoureux, les amants, les transis du cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, ça vous aura sans doute pas échappé, on se fait un plan culture cinématographique, pardon, très versé dans le sentiment et un peu aussi dans le film musical, la comédie romantique. Selon les programmations de vos cinémas en Sud-Ardèche, inspiré par le moment, et j'ai le plaisir d'être avec Olivier. Salut Olivier.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être là.
Mais c'est avec plaisir, tu le sais bien.
Mais oui, et surtout que tu as été très très sérieux, puisque dès 6h du matin, on peut dévoiler quand même, puisque l'émission ne se déroule pas tout à fait comme elle devait se dérouler, tu as regardé pour l'occasion Dirty Dancing et Love Actually.
Absolument, je me suis régalé.
Oh, quelle matinée. Ouais. Et également avec nous Julien, salut Julien.
Bonjour.
Et puis le fidèle... Un amant fidèle de fréquence 7 depuis 25 ans.
Oh oui.
Oh oui. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et puis aussi par téléphone, Alexis. On a enregistré un petit son tout à l'heure qui viendra nous parler de Baby Girl. Puisque vous l'aurez compris, c'est une émission un peu spéciale, donc autour de quelques comédies sentimentales ou de sexe depuis 1940, puisque le premier film qui va être projeté ce soir au Vence, d'ailleurs, c'est The Shop Around the Corner. On va parler aussi de Jolie Jolie avec toi, Julien, Dirty Dancing donc, Baby Girl et Love Actually. Eh ben, c'est parti, on écoute un tout petit extrait d'une bande-annonce qui normalement dure 4 minutes. 1940, ça dure 4 minutes, mais là il y a quelques secondes.
Ladies and gentlemen, I want you to meet Ernst Lubitsch, our director. The man who gave you a Garbo in Ninotchka who made you laugh, and who now gives you a Morgan who makes you laugh.
I hope.
Yes, I hope so too, in The Shop Around the Corner.
Ah, nous y sommes. The Shop Around the Corner de Lubitsch qu'on a entendu dans cette présentation. Alors Olivier, donc ouais. Tu m'as dit que tu avais énormément de choses. J'ai eu un peu peur quand tu es entré et tu as dit oui, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai fait ma thèse là-dessus. Alors Olivier, on va consacrer peut-être 5 à 7 minutes, pas plus.
Oui, non, je me dépêche, tu as bien fait d'ailleurs de sélectionner cette bande-annonce qui effectivement dure 4 minutes parce que dans cette bande-annonce, le monsieur qui tient le shop around the corner dans le film présente tous les acteurs et finit par présenter Ernst Lubitsch et c'est le passage que tu as donc sélectionné et j'allais en parler mais plus tard de cette bande-annonce. Oui, alors ce que je voulais dire c'est que il y aurait un livre, un film à faire autour de The Shop Around the Corner parce que c'est adapté, enfin le scénario est de Samson Raphael Son, mais c'est une adaptation au cinéma d'une pièce de théâtre de Miklos Laszlo, un Hongrois, qui avait donné cette pièce, La Parfumerie, c'était en Hongrie et au théâtre. Il avait donné cette pièce à Budapest en 1937. Et alors, je parlais de ma spécialité parce que j'ai travaillé, pas au niveau du doctorat quand même, mais j'ai travaillé beaucoup sur l'Empire austro-hongrois, l'histoire des idées à la fin de l'Empire austro-hongrois. Et bon, j'essaye de la faire rapide, mais le problème central de cette zone géographique à ce moment de l'histoire, c'est un problème d'identité. C'est-à-dire le lieu même a du mal à trouver son identité entre l'Autriche de langue allemande et puis toutes les nationalités qui sont représentées là-dedans. Et finalement, ce problème d'identité, il se retrouve au niveau des individus, savoir qui on est. Et ici, évidemment, c'est Saint-Valentin et puis c'est The Shop Around the Corner. Qui suis-je et qui suis-je appelé à aimer et de qui suis-je appelé à être aimé? Et c'est tout le thème du film. Il faut savoir donc que dans ce film, deux protagonistes sont en relation épistolaire avec chacun une autre personne et filent un amour tout platonique et invisible. D'un côté, et puis de l'autre côté, ces deux personnes qui ont des relations épistolaires en dehors du magasin vont se retrouver dans le magasin. Et donc il y a tout un process d'identification de l'autre et même de l'identification du sentiment qu'on éprouve réellement pour l'autre, étant donné que dans le magasin, au départ, ils ne se supportent pas et progressivement, ils s'aperçoivent qu'ils se supportent très bien. Vous voyez le truc. Voilà, donc pour cette raison-là, en particulier, le film est emblématique de la période, mais il est aussi emblématique de la question de la subjectivité, hein, de la constitution de soi à travers son histoire. Et ça, c'est évidemment universel, c'est éternel. Et puis, la rencontre de l'autre, qui est aussi cette rencontre universelle, elle est évidemment au cœur de toutes les comédies romantiques, mais aussi de certaines tragédies. Quoi. Enfin, c'est à Saint-Valentin, c'est aussi Roméo et Juliette. Hein. C'est une autre figure du couple qui ne se réalise pas. Là, c'est un couple, bon, qui se réalisera peut-être. Et puis, donc, alors, on sent quand même la transposition aux États-Unis. En Amérique. Et à quoi on la voit principalement? À une hantise qui véritablement, terrifie tous les personnages du film qui est tout simplement le chômage. C'est-à-dire il y a une terreur de perdre son emploi parce que effectivement on est en Amérique en 40. On n'est pas du tout relevé de la crise de 29, et il y a un problème économique lancinant, hein, autour justement du travail et de l'emploi. Et rapidement, et j'en aurai fini, 1940, c'est aussi la sortie des Raisins de la colère au cinéma. Les Raisins de la colère de Steinbeck était sorti, lui, le livre, en 39, l'année avant. Et on sait très bien que Les Raisins de la colère, c'est l'errance de gens qui partent du milieu des États-Unis et sont obligés de se rendre en Californie pour y travailler. Et en Californie, eh bien, on ne veut pas d'eux. Et parce que du travail, il n'y en a pas. Et on est dans l'ambiance donc des souris et des hommes aussi de Steinbeck. Donc, on a cette double problématique. C'est comme si Miklos Laszlo avait, en tant que migrant, était arrivé à New York, dans le Upper East Side de New York, avec ses problématiques de Mitteleuropa, et que s'y était adjoint des problématiques d'Américains du Nord à la même période. Ça donne une sorte d'épaisseur à ce film de Ernst Lubitsch qui pourrait évidemment passer pour ultra light, hein. Mais je crois qu'il ne l'est pas du tout. C'est très bien joué. C'est évidemment très bien écrit. C'est des huis clos. Et évidemment, on sent que c'est enraciné dans le théâtre, hein, naturellement. Donc, je crois qu'il faut le voir comme ça. Il faut le voir dans cette épaisseur que lui donne l'histoire.
Il faut le voir ce soir à 20h au Vence, oui, avec James Stewart.
Ah, c'est très bien joué et c'est très beau. Enfin, la photographie est magnifique. Hein.
The Shop Around the Corner, rendez-vous.
dans sa version française. Eh ben, on fait un bond de... Ouh, mon Dieu, 85 ans.
Écrivez-moi la plus belle histoire d'amour que vous puissiez imaginer. Et je me charge d'en faire un film.
Quand je l'ai vue si belle à l'autre bout du bar, j'ai pensé c'est Noël, quelques jours en retard.
La comédienne principale m'est très chère. Vous la connaissez peut-être ?
Quand je l'ai vue si seule à l'autre bout de rien, j'ai pensé qu'il me veuille un peu, ce serait bien.
Bonjour.
Tu l'as rappelé ?
Il ne veut plus vous parler.
C'est pas possible.
Alors ?
Alors elle veut plus vous revoir.
Il y a des gens qui dorment ici !
Pour fêter l'année nouvelle.
C'est elle que j'aime.
Je dois raccrocher.
Est-ce que Léonore a un amant ?
Je ne sais rien.
Tu sais qu'il suffit que je fasse ça.
Ça.
Voilà, comme ça.
Cinecittà, l'Italie, la pizza. Cinecittà, les jolies ragazza. Cinecittà, la patricella.
Espèce de sex symbole.
Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?
Rien n'est plus comme avant, tout commence aujourd'hui. Car tout pour l'avant sera
joli. Mi scusi, signore.
Ti scusi, mais enfin quand même, merde.
Ça ne m'arrive jamais à moi, ce genre de choses.
Oh, mais non, c'est trop triste. Pourquoi ça lui arrive jamais à lui ? Jolie, jolie, de Diastem. Et on a entendu, évidemment, la musique d'Alex Baupin. Et tu le conseilles, enfin, tu es allé le voir. Tu le présentes, en tout cas, Julien.
Oui, je le présente, je l'ai vu. Je pense qu'il est... éminemment de saison, puisqu'effectivement, on est le 14, on ne le propose pas le même jour, mais le dimanche qui suit, donc pour une matinée, on va dire, amoureuse, tout à fait possible. Donc
à
c'est
l'USAS,
à l'USAS à 11h, après le brunch.
Offert par la municipalité, 11h, et ensuite le film.
Tout à fait. Et donc, du coup, c'est un espèce de petit bonbon, on va dire, ce film, avec une... effectivement, la musique, on est dans du mélo, l'histoire... c'est un écrivain qui n'arrive pas à écrire, donc ça c'est une histoire qu'on connaît depuis longtemps dans le monde du cinéma, hein, qui a fait beaucoup de très beaux films, et il cherche l'inspiration, et il va être, on va dire, contacté par quelqu'un qui veut qu'il écrive un film, en fait, qui aime beaucoup son premier roman. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du film, des péripéties, mais en tout cas, c'est une histoire d'amour, avec une rencontre, des gens qui se croisent, qui se loupent, on retrouve les thèmes qu'on peut retrouver dans ce genre de film, une comédie musicale avec effectivement la musique qui est au rendez-vous, hein, c'est Alex Baupin qui a fait la bande originale. Diastème, c'est quelqu'un qu'on connaît plus dans le théâtre, mais qui est aussi musicien, qui est aussi... Voilà, et tous les deux sont amis depuis très longtemps et ont décidé de se faire une opérette au départ, et plutôt, ça s'est fini en faire un long métrage. On va retrouver un casting un peu XXL, on va dire, dans ce domaine-là, puisqu'il y a Clara Luciani, qu'on connaît, c'est l'interprète de La Grenade, tout le monde a entendu ce titre, si vous ne la connaissez pas, mais vous connaissez au moins ce titre-là, et William Legbill, donc qui chante aussi dans le film. Moi, j'avoue, j'étais assez impressionné par Monsieur Legbill, et que je découvre, que je trouve que c'est un comédien, enfin un acteur qui prend de plus en plus d'épaisseur au fil du temps, des films qu'il fait, et c'est à la fois plaisant à voir, et c'est un petit bonheur, je trouve, au cinéma, d'avoir un personnage comme ça, qui fait son chemin, qui est vraiment très très juste à chaque fois dans ses interventions. Je trouve que il est très très intéressant.
Et alors j'ai une question, parce qu'on l'a entendu, et puis j'ai vu la bande annonce, c'est l'âge d'or de la comédie musicale par Jacques Demy. qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que ça, c'est un clin d'œil respectueux? Est-ce que ça va au-delà? Ouais. Ou est-ce que ça colle? Est-ce que c'est vieillot? Est-ce que c'est alors, du déjà fait? Est-ce que c'est...
Bah alors, il faut dire que toutes les comédies musicales en France, on les compare à celles de Jacques Demy, qui sont
Oui, mais là, quand même, musicalement, voilà. Les coupes de... Enfin,
Oui, bien sûr. Bah, après, il y a eu
toute l'esthétique.
Il y a eu Christophe Honoré aussi qui a fait des choses, mais effectivement, je trouve ça assez. C'est assez fidèle et pas du tout, parce que lui, il a situé, on va dire, c'est son film dans les années 77.
Ben
mais c'est des années 77 rêvées, où il est à la fois en termes musical, à la fois à cheval entre le disco, les années 70, la chanson française. Donc il y a une espèce de mélange de toutes ces inspirations là. Il n'a pas hésité à mettre des violons, de l'orchestre, bon, ce qui coûte cher, on va dire, en termes de cinéma et d'exploitation, mais qui donne une ampleur, on va dire, un velours à ce film-là. Donc du coup, c'est à ce niveau-là très très bien, on va dire, réalisé. Il s'est entouré de chefs opérateurs, on va dire, de grande qualité, avec une image qui a vraiment un grain, une qualité particulière. C'est l'hiver, c'est Paris, c'est assez, assez chouette. Il y a des choses effectivement en costume. C'est à la fois très drôle à des moments, très romantique à d'autres. Donc c'est une comédie romantique, un mélo. Ils ont voulu faire quelque chose qui j'imagine finit bien, donc du coup vous allez là-bas en terrain on va dire pour passer un bon moment, quoi.
Mais ouais, c'est pas grave, parce que c'est dimanche matin. On a envie de ça dimanche matin, dimanche matin midi,
voilà. Mais oui, alors après le brunch vous pouvez vous pelotonner dans votre fauteuil et puis regarder ça avec beaucoup de plaisir. En tout cas, nous on est ravis de pouvoir proposer ces films le dimanche autour d'un brunch pour les spectateurs.
Joli, donc, de Diastème. Alors ça, c'est pas joli, c'est même dirty. C'est sale, c'est lascif. C'est la danse lascive, comme disent les Québécois.
Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Fait du bien. Time of My Life, la bande originale, donc de Dirty Dancing, ce film réalisé par Émile Ardolino, mais qui a été écrit par une femme et produit par une femme. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Cette femme, c'est Eleanor Bergstein, qui s'est inspirée pas mal d'ailleurs de sa vie pour ce film mondialement, galactiquement connu. Dirty Dancing. Et donc, Olivier, à 6h du matin, tu as regardé Dirty Dancing.
Bah oui, j'ai même mis le soleil à rêver, non ? Le réveil a sonné. Oui, j'ai vu ça, et effectivement, c'est une sorte de voyage dans le temps, hein, on peut le dire, et double d'une certaine manière, parce que, une famille américaine typique des années 60, là on est très très loin de la crise dont je parlais juste avant, on est plutôt dans la période d'épanouissement économique de l'Amérique du Nord, et une famille modèle se rend dans un établissement spécialisé dans les vacances, c'est-à-dire il faut faire passer au maximum des bonnes vacances à des gens qui ont un petit peu d'argent, on va dire, sans excès, mais un petit peu. Donc on organise des jeux, on organise des... Et on organise aussi des cours de danse, etc., etc. Alors, le premier voyage dans le temps, quand on regarde ce film, effectivement, il est dans le fait qu'on est plongé dans l'Amérique du tout début des années 60, 63, tu me disais. C'est la date de supposée action du film. Et on a tous les préjugés américains de cette époque. Il faut réussir sa vie et réussir dans la vie, c'est presque la même chose, d'une certaine manière.
Ah, c'est sûr, oui.
Il faut se marier à la bonne hauteur. Là, on a presque l'impression d'être dans un roman de Jane Austen, tellement il y a une espèce d'obsession de s'acoquiner avec la bonne personne qui vous maintiendra au niveau social, voire vous élèvera un peu. Et là, pas de peau, puisque la cadette de cette magnifique famille a un crush pour le professeur de danse qui, lui, vient de tout en bas.
Patrick Swayze.
C'est
Swayze, on dit, pareil.
Enfin, lui-même. Alors, deuxième voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'effectivement, le film témoigne plus encore des années 80, c'est-à-dire de l'époque à laquelle il a été filmé, avec effectivement une nouvelle couche de préjugés et une nouvelle couche de mode et de look. Et effectivement, nous, avec la distance qu'on a, évidemment, on est pépère, puisqu'on est en 2025, donc on a tout l'espace-temps qu'il faut pour regarder ça. Et bon, ça
et,
se...
Et préjugés.
Les préjugés, justement, le... Comment dirais-je ? La contre-culture, mais bien lavée, hein, la contre-culture bien propre, c'est-à-dire une certaine liberté sexuelle. Effectivement, c'est la danse lascive, hein, c'est comme ça que les Québécois, comme tu le disais, ont traduit « dirty dancing ». Donc, l'idée qu'on est libre de disposer de son corps, effectivement, il y a la problématique de l'avortement, enfin, etc.
Voilà. Quand même.
Ah ben oui, mais justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on assiste aux États-Unis à la venue d'une nouvelle couche de préjugés, si vous voulez. Mais bon, il n'empêche que, évidemment, en ayant un regard comme ça, historique, pénétrant, mais pénétrant pas au sens de, où je serais particulièrement, comment dirais-je, moi, pertinent et pénétrant, mais si vous voulez, simplement, on a sous les yeux, après les années 40, avec The Shop Around the Corner, on a les années 60 représentées dans le film, les années 80 de ce film, et puis nous on regarde ça depuis 2025, et puis on sait très bien ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Donc effectivement, il y a de quoi méditer la vie, l'histoire des préjugés, parce qu'il faut évidemment pas penser que nous sommes nous-mêmes exempts de préjugés, ça va de soi.
Tu l'as revu aussi il y a quelques semaines, Julien, et tu me disais avec une jeune fille.
Ah oui, moi je l'ai revu, mais après, oui, alors du coup, on parlait de préjugés, alors là, du coup, effectivement, je pense que ça peut choquer, on va dire, la jeune génération, la façon, les relations hommes-femmes sont pas tout à fait, on va dire, ce qu'on aimerait qu'elles soient, même pour la vieille génération.
Donc, oui, ouais, mais il y a, enfin, bon, je l'ai revu aussi il y a quelques semaines. Et je ne l'avais pas fait depuis 30 ans. Et évidemment, les points de départ, les relations hommes-femmes, c'est absolument déplorable, mais c'est ce qui est aussi critiqué dans le film. C'est-à-dire que la jeune fille, bébé, elle est, c'est elle qui va jouer quand même un rôle... un rôle important, c'est elle qui est la femme forte, c'est pas Patrick Swayze qui lui est justement vulnérable, fragile, c'est elle qui est dans une posture socio-économique, on va dire favorisée, et puis voilà, donc sur les relations hommes-femmes, bien sûr, ça montre que dans les années 60, c'est terrible, quoi. Tu dois te maquer, c'est ce que tu disais, Olivier, avec quelqu'un de bien, et puis chacun y va, là. Chaque mâle y va de son petit spectacle pour appâter la femelle.
Oui, non, mais de toute façon, oui, on est dans une société où les femmes sont une espèce de bétail qu'on essaye de vendre au plus haut. Enfin, il y a un côté comme ça, dans les parents qui présentent. Voilà, il faut trouver le bon parti, quoi. Mm. Voilà, donc il y a un côté comme ça qui est assez déplorable. Effectivement, bébé sort de ce moule-là, donc du coup, ça crée des problèmes. Mais à la fois, elle s'appelle bébé quand même, hein, déjà. déjà, de fait. Voilà, ça, du coup, ça pose un peu des questions.
Elle est comme un peu minorée, tu veux dire.
Voilà, c'est une jeune fille très jeune, voilà, qui tombe amoureuse d'un jeune homme un peu plus âgé. Voilà, ça laisse quand même parfois un arrière-goût quand même assez... je pense pas qu'on aurait tourné aujourd'hui ce film-là comme ça, ou voilà, on est très très loin du female gaze, vous voyez ce que je veux dire, c'est une femme qui l'a réalisé tout ça, donc ça pose la question aussi.
Qui l'a écrit et produit, voilà. Mais ça a été réalisé par un mec.
Voilà. Mm. Donc ça pose toutes ces questions. Après, moi, comme c'est quand même un peu plus lointain, moi, ça fait l'année dernière où il y a un an ou deux où je l'ai vu. Donc du coup, je suis pas encore dedans, mais je me rappelle un petit arrière-goût quand même amer sur, parce qu'au début, je me suis dit, tiens, on va regarder ce film-là avec ma fille.
Qui a quel âge?
Qui a 18 ans maintenant, mais quand d'accord. Elle l'a vu, du coup, elle avait 16-17 ans, on va regarder ça ensemble. Voilà, au bout d'un moment, on s'est regardé, on s'est dit, quand même, parce que les dialogues sont quand même... Même si, effectivement, je pense qu'à l'époque où c'est sorti, il y a eu un vent de fraîcheur, je pense, pour les jeunes filles, parce qu'elles se disent, bah tiens, on peut... Mais ça se finit pas forcément, enfin voilà, c'est pas non plus... Moi, j'ai pas entré dans les détails de la fin.
Oui, mais je suis assez d'accord, enfin même complètement d'accord avec Julien. C'est-à-dire que je parlais de contre-culture lavée. Il faut quand même bien voir aussi que cette contre-culture dont on parle, on a eu l'occasion d'en parler peut-être avec Dylan, hein, un parfait inconnu, etc. Elle est assez machiste quand même. Il faut pas croire. Hein. Donc effectivement, ce machisme de la contre-culture qui plus est lavée. Il apparaît tout à fait dans ce film. C'est pour ça que je parlais de préjugés. Après les préjugés des années 60, les préjugés des années 80. Et je comprends parfaitement qu'une jeune fille de l'âge de la fille de Julien, pour elle, c'est une évidence.
Non, mais après, ça pique.
Tout pique, ouais, sûr.
Et après, c'est vrai que c'est, tu parles de contre-culture. C'est presque pas de la contre-culture, en fait, le rôle de Swenson. Voilà, mais parce qu'il est quand même, lui, il est dans une culture, c'est assez machiste, je veux dire, même sa façon de danser, etc. C'est plus de la danse de salon que de la danse de, on va dire, améliorée, mais on est quand même dans ce registre-là, si on voulait comparer une danse au genre, enfin voilà, ceux qui font des...
On va peut-être pas faire toute l'émission sur Dirty Dancing parce que, Alexis va nous parler de Baby Girl, mais donc Dirty Dancing, c'est ce soir au Teil, puisque ils font une soirée spéciale, d'abord à 18h Love Actually, et à 21h Dirty Dancing sur grand écran en version française. On écoute la bande-annonce de Baby Girl.
If we're gonna do this, we need to set some rules that you and I both agree on.
Did you order this?
Starting with, I tell you what to do and you do it.
And if I don't?
Get on your knees.
No! What?
Get on your knees now. Is that what you want?
You're very young. I don't want to hurt you.
Hurt me? I think I have power over you. Because I could make one call and you lose everything. Does that turn you on when I say that?
Baby Girl de Alina Rain. Et donc, Alexis a vu Baby Girl.
Oui, j'ai vu Baby Girl. Qu'est-ce que j'en ai pensé?
C'est ça.
Alors, donc, le dernier film de Alina Rain avec Nicole Kidman et Harris Dickinson. Donc, c'est un thriller érotique qui dérange, mais qui ne fait pas l'unanimité avec tout le monde. Autant la presse que les spectateurs.
Ah, c'est sûr. Ouais, moi, j'ai entendu et lu des choses très, très différentes. Et rien que la bande-annonce, mais j'ai un petit problème avec Nicole Kidman refaite.
Ouais, c'est vrai que ça peut déranger. ça peut déranger. Il y a beaucoup d'actrices qui sont dans ce, dans ces choses-là, hein, à l'heure d'aujourd'hui, et qui posent question, hein, sur le physique et l'acceptation de soi aussi. Donc, on en revient au film. Donc déjà, alors l'histoire c'est quoi ? On suit Romy Matisse, une femme d'affaires puissante, respectée, qui semble tout contrôler, jusqu'au jour où elle entame une liaison avec Samuel, son jeune stagiaire. Ce qui commence comme un jeu de séduction va devenir vite plus intense, plus dangereux et surtout bien plus compliqué que prévu. Ce que je peux en dire, c'est qu'au départ, c'est quand même un film qui ose. Parce que, bon, un film comme celui-ci, on n'en voit pas tous les jours.
Tu veux dire qu'il aborde quelque chose peut-être de SM ou...
Ouais, on est à la limite en fait. Bah, déjà quand on voit le film, ça pose question, est-ce qu'on va le voir, est-ce que ça va nous déranger, est-ce que déjà la première approche, elle est intrigante. On ne sait pas si on a envie de le voir. Enfin, ça c'est mon premier rapport au film. Et donc d'abord, ce qu'il faut souligner quand même si on a un problème ou pas avec Nicole Kidman, elle est quand même bluffante dans le film. Et elle a eu un prix pour ça à la Mostra de Venise. Donc elle prend des risques quand même avec ce rôle et moi ça me fait plaisir parce qu'elle joue une femme qui vacille entre contrôle et vulnérabilité et elle le fait avec une intensité quand même qui est assez incroyable. Et en face on a un acteur Harris Dickinson qui est lui aussi très bon dans son interprétation. Et il apporte, lui, du mystère et de l'ambiguïté au film pour qu'on se pose constamment la question qui manipule qui entre les deux. Voilà. Et l'autre point positif, quand même, c'est que visuellement, il est vraiment superbe. Et il y a un vrai travail d'ambiance entre le luxe froid du monde de Romy et la tension sensuelle qui monte petit à petit tout le film. Et on sent bien en fait l'influence des films comme Eyes Wide Shut ou de Kubrick ou Basic Instinct, avec une atmosphère qui est très hypnotique et je dirais troublante et presque élégante en fait.
Voilà.
Et c'est vraiment les points positifs du film. Après, ça marche pas toujours. Parce que le problème, l'histoire, c'est que elle suit pas toujours. Le film veut questionner plusieurs choses, donc le pouvoir, le désir, l'inversion des rôles, et parfois c'est trop appuyé, et à mon goût en tout cas, et c'est aussi les retours qu'ont les spectateurs en règle générale, et y a certaines scènes notamment qui manquent de subtilité, on a parfois l'impression que le film en fait trop pour provoquer, ce qui fait qu'on est dans l'exagération, on n'y croit plus. C'est vraiment le petit problème quand même du film, le gros problème. Et y a un vrai manque de surprise. Par exemple, je pense au début du film qui est vraiment très très prometteur. L'ambiance, elle est bien installée. Et puis au fil du film, ça devient trop prévisible. On devine un peu trop vite où ça va. Et ça casse la patte d'un thriller qui se veut thriller et comme on aurait envie de le voir. Voilà. Et moi, la question que j'ai envie de poser aux spectateurs, et c'est la première chose que j'ai presque dit au début, c'est est-ce qu'on a envie d'aller voir Baby Girl ? Et moi, je dirais, si on veut voir un film qui bouscule et qui explore un petit peu les zones grises du désir et du pouvoir, bah, il faut aller le voir, ça vaut le détour. Et rien que pour Nicole Kidman, qui quand même livre une performance qui est à voir, il faut se rendre en salle. Mais si pour moi, vous cherchez quand même... Un thriller avec un vrai suspense.
Passez votre chemin.
Passez votre chemin, ouais, on risque d'être un peu frustré, déçu. Et si je peux conclure, donc Baby Girl, c'est quand même un film qui divise un petit peu tout le monde. Il est réussi à certains moments, d'autres un peu moins, c'est un film nuancé, mais c'est quand même un film qui ne laisse pas indifférent à la fin. Donc ça vaut le mérite qu'on s'y attarde et chacun fera son avis là-dessus. Voilà. Et les spectateurs qui ressortent, en tout cas nous, au vent, sont quand même assez déboussolés. Déboussolés, on sort d'une zone de confort, vraiment. Voilà. Et ça, c'est intéressant.
Ok, bah super.
Voilà ce que je peux dire.
Un film pour en parler et peut-être encore faire l'amour après, je ne sais pas.
Exactement, un bon film pour la Saint-Valentin, quoi qu'il arrive.
Ok, bon, parce qu'on a d'autres films comme Dirty Dancing hein, à l'affiche, donc je ne sais pas. Bref, Baby Girl qui est encore au Thaï, il n'est plus au Vence en ce moment.
Non, exactement.
Il est encore.
On a fini de tourner, ouais.
Ouais, il est encore à voir au Thaï. Merci beaucoup, Alexis.
Je t'en prie.
Ah, il nous reste quelques secondes pour parler de Love Actually, deuxième film que tu as vu ce matin et qui passe au Thaï ce soir à 18h.
Oui, alors Love Actually, que j'ai vu donc ce matin, effectivement, c'est un petit peu The Shop Around the Corner, mais x10, c'est-à-dire c'est 10 histoires de rencontres amoureuses qui vont se faire ou pas, et on a les 2h15 du film pour savoir si ça va matcher ou si ça va pas matcher. Et d'ailleurs, je voulais en parler, le film Love Actually commence comme la bande-annonce du Lubitsch, c'est-à-dire on voit les protagonistes défiler pendant quelques minutes pour faire en quelque sorte la présentation, et effectivement Love Actually is all around, c'est-à-dire l'amour est réellement partout, parce qu'effectivement il va y avoir des tas d'histoires d'amour depuis le Premier ministre de la Grande-Bretagne jusqu'au petit collégien. Voilà, tout ça se fait en musique. Je pense que si on prend toute la musique du film, toutes les musiques du film, eh ben on a en même temps et pour le même prix la playlist de la Saint-Valentin. Donc c'est un film qui se voit et qui s'écoute.
Waouh, merci en quelques secondes. Et c'était ouais, Richard Curtis, c'est lui qui avait fait, enfin qui est le scénariste de 4 mariages, un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill.
Avec un casting vraiment très très fort, effectivement.
Merci beaucoup, merci à tous les deux, trois. Et quatre avec Sylvain d'avoir participé à cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour toujours encore plus de cinéma. Ciao.
Au revoir.